France Inter, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien de la matinale la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Le standard vous est ouvert, 01 45 24 7000. Intervenez également sur les réseaux sociaux et avec l'application mobile France Inter. Bonjour Nicole Belloubet.
Bonjour.
Les députés commencent aujourd'hui, ça y est, l'examen en commission de la loi anti-casseurs promise par Édouard Philippe pour répondre aux violences qui ont émaillé la mobilisation des Gilets jaunes. Elle prévoit notamment des interdictions de manifester, la création d'un fichier des casseurs. C'est une loi, on le sait, qui a été dictée par l'actualité, une loi qui a été promise, annoncée dans l'urgence. Première question, juste pour avoir les idées claires. Est-ce qu'on peut interdire à un citoyen d'exercer son droit constitutionnel à manifester comme on prive un hooligan de match de foot, puisque la loi anti-hooligan est visiblement la source d'inspiration de cette loi anti-casseurs?
Alors, vous posez une question qui est une question d'équilibre, au fond. Le droit de manifester, c'est un droit qui découle de la Constitution et notamment de la liberté d'aller et de venir et de la liberté d'exprimer ses opinions. Donc, d'une certaine manière, il y a un double fondement. Donc, à ce titre, c'est un droit protégé. Mais le Conseil constitutionnel, comme la Cour européenne des droits de l'homme, ont dit à plusieurs reprises que cette liberté de manifester pouvait être conciliée avec des exigences liées à la protection de l'ordre public et à la protection des biens des personnes. Et donc, au fond, c'est une conciliation entre exigences constitutionnelles. Donc, de ce point de vue-là, on peut imaginer qu'il y ait des règles qui encadrent cette liberté.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui sera interdit de manifester? Quelles sont les règles? Qu'est-ce qu'il faudra avoir dit ou fait pour avoir une interdiction de manifester? Si j'écris sur un réseau social Macron démission, est-ce que j'ai le droit de manifester ou pas?
Alors, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que ce texte, il arrive aujourd'hui au Parlement. Il a pour base la proposition de loi déposée au Sénat par Retailleau, Bruno Retailleau, sur lequel le gouvernement avait émis un avis de sagesse. Ce texte arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il va faire l'objet d'un travail soutenu par et la Commission des lois et puis ensuite en séance. Je le disais à l'instant, c'est un texte qui doit être un texte d'équilibre. On est vraiment sur une ligne de crête puisqu'on est entre cette liberté qui est protégée et puis des exigences de sécurité. Pour répondre,
mais c'est
à
pour ça que je vous demande quelques. Je sais bien que vous n'allez pas rentrer dans le détail du texte puisqu'il va y avoir des amendements et qu'il va être corrigé.
Voilà.
Mais votre philosophie sur les textes, vraiment, c'est... pour essayer de comprendre, à quel moment vous dites bon, elle, lui, on va leur interdire
tel que c'est écrit actuellement. L'interdiction de manifester concernerait des personnes qui, par leur comportement, sont susceptibles de créer un risque grave de trouble à l'ordre public. La formulation est à peu près celle-là. Et, car la condition est cumulative, telle que c'est écrit actuellement, et des personnes qui soit auraient déjà été condamnées, soit feraient partie de groupes qui incitent à la commission de faits violents. Donc on a dans l'écriture actuelle, un cumul de critères, j'insiste bien là-dessus, et il me semble que le Parlement, dans sa réflexion, doit évidemment être très attentif, d'une part, à la nature des critères qui devront être utilisés, et d'autre part, à des garanties, c'est-à-dire un contrôle, car il n'y a pas d'atteinte à la liberté de manifester sans qu'un contrôle ne puisse s'exercer, c'est-à-dire avec un juge. Et donc c'est l'ensemble de ces éléments, de ces paramètres qui permet de répondre à votre question.
La France avait vraiment besoin d'une telle loi? Il n'y a pas assez déjà de dispositions pour en rajouter une nouvelle couche?
Vous savez, il est apparu qu'un texte était peut-être utile pour mieux protéger la liberté de manifester. C'est paradoxal de dire cela à l'occasion des dispositions dont nous parlons, mais l'idée c'est quand même celle-là, c'est-à-dire de vraiment protéger le droit de manifester, la liberté de manifester, et de protéger également les personnes qui subissent les dommages des casseurs. Donc c'est cette idée-là qui, me semble-t-il, est à la base de ce texte.
Mais Madame la Ministre, pourquoi l'écrire dans une loi? Vous savez beaucoup mieux que nous tous, puisque vous connaissez parfaitement la force de la loi. Pourquoi est-ce que cette encadrement de la liberté de manifester pour un moment précis qui est ce moment des Gilets jaunes, pourquoi vous l'inscrivez dans la loi? Et qu'est-ce qui nous protège du fait que cette loi ne soit pas détournée dans un an, dans deux ans, dans trois ans, et que d'une loi anti-casseur faite pour un moment Gilets jaunes, ça se transforme en une loi anti-militant politique à des moments de vote ou de présidentiel?
Moi j'entends votre argument et nous devons être très vigilants. Deux observations. D'abord, ce n'est pas une loi qui apparaît seulement au moment des Gilets jaunes, mais c'est une loi qui a répondu également au débordement du 1er mai dernier, qui, vous le savez, ont été extrêmement violents également. Donc, ce n'est pas une loi de circonstance, c'est une loi qui est destinée, je le dis, je le répète, à protéger cette liberté de manifester, d'une part, et d'autre part, l'inscription dans une loi permet de poser un certain nombre de garanties. Et c'est ce à quoi les parlementaires vont, je pense, s'attacher. C'est-à-dire vraiment vérifier que à chaque mesure, il y a un juge qui puisse intervenir dans des délais efficaces pour garantir la liberté de manifester, tout en donnant des moyens opérationnels.
Nicole Belloubet, passons à la question des infox, des fake news. On en a vu circuler beaucoup depuis quelques semaines.
Oui,
et le mouvement des Gilets jaunes, mais il y en avait avant et il y en aura après. Est-ce qu'on ne voit pas la limite de la loi anti-fake news limite quand elle ne s'applique en fait que quand période électorale. Comme je le disais, ça circule partout, ça circule tout le temps, ça infuse sur le temps long, ça se diffuse sur le temps long. Est-ce que cette loi sert vraiment à quelque chose, pour le dire très simplement?
Cette loi, telle qu'elle a été envisagée, elle est vraiment, vous le disiez vous-même, liée aux campagnes électorales. Donc c'est vraiment la lutte contre les infox à un moment précis de notre vie démocratique. Je ne sais pas s'il faut réglementer l'ensemble de la vie sociale et de la vie politique en permanence. D'une certaine manière, on revient à la question que posait Léa Salamé sur la question de l'encadrement de la liberté de manifester. Je ne suis pas sûre qu'il faille l'étendre. Toutefois, il y a des dispositifs qui sont élaborés, y compris au niveau européen, lorsque sont diffusées sur Internet des incitations à la haine, des incitations à la discrimination raciste, etc. Mais je ne sais pas si on pourra jamais, par une loi, éviter que se diffusent des infox.
Au fond, c'est peut-être une réaction. Fermer le robinet au
C'est sans doute, peut-être, au fond, y compris l'État devrait peut-être se doter d'une force de réaction en termes de réseaux sociaux également.
Marine Le Pen dit dans les médias et sur les réseaux sociaux qu'avec le traité d'Aix-la-Chapelle, Emmanuel Macron, je cite, veut partager le siège de la France aux Nations Unies avec l'Allemagne. C'est quoi? Est-ce que c'est une fake news?
Bah oui, bien sûr.
D'accord.
Bien sûr.
Si on était en période électorale, là, qu'est-ce qui se passerait si elle disait ça?
Eh bien, on pourrait peut-être mettre en place les dispositifs qui sont prévus par le texte.
Et donc?
Mais si vous voulez, il me semble que on n'a pas nécessairement besoin, y compris là, il me semble que le débat politique peut être aussi puissant, enfin le débat politique et la contradiction portée à ce que dit Marine Le Pen, qui vraiment extrapole de manière absurde par rapport à ce qui a été dit et signé hier.
Oui, mais d'une certaine manière, ils arrivent à convaincre, elle, Nicolas Dupont-Aignan et d'autres, avec par exemple cette infox sur Aix-la-Chapelle.
Franchement,
il y a beaucoup
de gens.
Oui,
vous pensez qu'ils arrivent à convaincre?
Oui, je pense que. Et si vous ne le réalisez pas, c'est que vous réalisez pas la force de frappe des réseaux sociaux et des infox. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire quand même, est-ce qu'on n'est pas en train de céder notre souveraineté à l'Allemagne? Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre l'Alsace sous tutelle?
À l'heure où précisément l'Alsace-Moselle se renforce dans la République française, à l'heure où précisément nous donnons à ces territoires la possibilité de construire une identité, vous pensez vraiment qu'une explication rationnelle et pédagogique ne l'emporte pas?
Oui, je pense que parfois la raison bute sur
J'ai encore l'espoir dans la raison.
Mais la loi fake news s'applique donc à ces propos. C'est-à-dire que si le site du Rassemblement National continue à le dire, à le tweeter, à le publier sur Facebook, un juge en 48 heures pourra dire arrêtez. De dire qu'il va y avoir partage du siège.
Nous ne sommes pas dans la période électorale, on pourrait imaginer que ce soit
le cas. C'est ce qui a lancé la campagne électorale pour le Rassemblement National. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le juge peut dire on interdit.
Écoutez, on est dans ce moment-là, on n'est pas dans une période d'application de la loi sur les infox. Donc nous sommes dans un débat rationnel et il me semble que nous avons des arguments pour contrer l'absurdité des propos de Marine Le Pen. Je crois que nos concitoyens peuvent parfaitement entendre que jamais, évidemment, le président de la République n'a eu cette idée-là.
Emmanuel Macron a appelé à une levée progressive de l'anonymat sur Internet. C'est une question d'hygiène démocratique, dit-il. Est-ce que vous travaillez, et si oui, comment, à contraindre ceux qui écrivent masqués, insultes masquées sur les réseaux sociaux, ne le soient plus masqués?
Nous travaillons beaucoup, tout ministère confondu, avec Mounir Majoubi, moi-même, d'autres ministères. Nous travaillons beaucoup à la diffusion, encore une fois, sur Internet, à la fois des insultes, des fausses informations et
des menaces.
Nous travaillons beaucoup là-dessus. Je ne suis pas sûre que nous ayons au stade où je parle un dispositif qui soit complètement opérant, mais en tout cas, c'est vraiment, je crois, un des points sur lesquels nous devons avancer.
Mais il n'y a pas de projet de contraindre l'internaute à avancer sous son nom.
Au moment où je vous parle, il n'y a pas de projet de cette nature, mais il y a, je dirais, des avancées sectorielles. Je parlais tout à l'heure, encore une fois, de l'incitation au terrorisme et à la lutte contre les discriminations sur Internet. Nous avançons là-dessus, y compris au niveau européen, et c'est sans doute l'objet d'une réflexion beaucoup plus large. Mais vous savez également, nous travaillons avec les grands opérateurs sur les informations qu'ils diffusent pour voir avec eux comment nous pouvons évoluer, peut-être par voie législative.
Encore quelques mots d'actualité lors de sa nouvelle audition. Alexandre Benalla a clairement sous-entendu que le directeur de cabinet du président de la République aurait eu accès au dossier judiciaire, ce qui pose question, a-t-il dit, sur l'indépendance des institutions. Que répondez-vous à cela? La séparation des pouvoirs a-t-elle été respectée?
Écoutez, moi j'ai, il y a quelques mois, écrit dans Le Monde une tribune sur l'exigence de séparation des pouvoirs. Je répète, je ne veux pas là m'immiscer dans une affaire qui fait l'objet d'une procédure judiciaire.
Là, mais il porte une appréciation sur l'équilibre et la séparation des pouvoirs.
J'ai clairement dit ce qu'il en était, avec le respect de l'indépendance de l'autorité judiciaire, le respect du travail du Parlement dans les commissions d'enquête, lorsque c'était le cas. Je n'ai rien d'autre à ajouter à ce stade sur
ce dossier. Donc il n'y a pas eu communication du dossier ou partage d'informations, comme il le sous-tend.
Je n'ai pas à apporter d'informations sur ce dossier.
Vous aviez émis des doutes cet été sur la commission d'enquête du Sénat, rappelez-vous, c'était à ce micro et un petit peu dans Le Monde également.
Ah non, dans Le Monde, je n'émettais aucun...
Micro,
non,
vous
non,
aviez
non.
Dit
oui, mais dans Le Monde, je n'émettais aucun doute. Je disais simplement qu'il y a des règles à respecter qui sont prévues par la Constitution.
À ce micro, vous disiez, il va de soi que personne n'est dupe de ce qui s'est passé cet été, l'instrumentalisation de ce qui est tout de même une dérive personnelle. Il va de soi qu'il y a toujours une lecture politique. Vous aviez l'impression que...
C'était l'ensemble, effectivement, l'ensemble de la manière dont la question de l'affaire Benalla a été traitée cet été, où on ne peut pas nier, aussi bien à l'Assemblée nationale que dans d'autres lieux, qu'il y avait eu, évidemment, une instrumentalisation.
Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui avec la commission d'enquête du Sénat? Il y a toujours une instrumentalisation politique?
La commission d'enquête du Sénat a fait son travail, elle va rendre son rapport, on le lira avec attention.
Allez, on va passer au standard de France Inter, on a encore beaucoup de questions, Nicole Belloubet, à vous poser. J'ai le plaisir d'accueillir Kerry, qui nous appelle d'Espelette.
Oui, voilà, tout à
charmant
fait.
Village.
Bonjour à tout le monde.
Bonjour
Madame le ministre.
Bonjour monsieur.
Voilà, je vous téléphone parce qu'en fait, j'ai entendu ce que vous disiez. Par rapport à, en ce moment, vous allez débattre d'une loi anti-casseurs. Et je voulais savoir si également, par rapport aux bavures policières, et plus particulièrement aux tirs de flashball, dont des jeunes personnes calmes, pas du tout violente, ont reçu, nous par exemple à Biarritz, la jeune fille étudiante, le pompier à Bordeaux, etc. Est-ce que là, vous allez prendre des mesures également?
Merci Kerry pour cette question. Nicole Belloubet vous répond.
Je crois, monsieur, que dans une république comme la nôtre, il y a des règles de droit qui doivent être respectées, aussi bien par les citoyens qui manifestent que par les policiers. Ces règles de droit s'imposent à tous et comme l'a dit le ministre de l'Intérieur, il y a des enquêtes qui sont conduites par l'IGPN et nous attendrons les résultats de ces enquêtes. Mais il est impératif, évidemment, à la fois que les forces de l'ordre et les moyens de faire respecter l'ordre, mais également qu'elle respecte les règles de droit. Je crois qu'il n'y a aucun doute pour personne là-dessus. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur a annoncé hier que les policiers qui utiliseraient un certain nombre d'armes seraient dotés de caméras pour qu'il n'y ait plus de discussion ou pas de discussion sur la manière dont ces armes sont utilisées. J'espère ainsi que nous parviendrons à rétablir ou à établir en tout cas ces contradictions qui peuvent naître.
Le grand débat national, il se poursuit partout en France. Début janvier, le député La République En Marche, Sacha Houlier, expliquait que la piste d'un référendum à questions multiples sur les institutions était à l'étude du côté de l'exécutif à l'issue de ce grand débat et que peut-être on ferait un référendum sur les questions institutionnelles, la proportionnelle, le vote blanc, etc. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que vous êtes favorable à un tel référendum?
Alors d'actualité, nous n'avons pas du tout tranché sur ce qui formera la fin du débat. Le président de la République n'a pas pris d'engagement sur aucune des modalités qui pourraient clôturer ce débat. C'est vrai qu'il y a eu des interrogations sur la possibilité d'un référendum à questions multiples. Moi, personnellement, c'est une possibilité qui m'intéresse. Il faut voir si elle est juridiquement réalisable. Parce que, évidemment, nous sommes contraints par des règles juridiques. Et je ne sais pas si nous pourrions organiser un référendum de cette nature-là sans qu'il y ait une disposition législative qui l'encadre, qui prévoit la consultation du peuple. Donc, c'est une question qui se pose, mais qui est à manier avec délicatesse en fonction du respect des règles juridiques qui encadrent l'exercice des libertés.
Avant de retourner au standard, une question.
En tout cas, pardon, excusez-moi, oui. Juste référendum ou pas référendum, évidemment, nous tiendrons compte, bon, ça va de soi, des remontées.
Avant de retourner donc au standard, une question sur l'Italie qui a annoncé samedi avoir recensé 30 personnes condamnées pour terrorisme en fuite à l'étranger et dont l'Italie souhaite qu'elles soient livrées à la justice pour purger leur peine de prison. C'est les suites de l'affaire Battisti. L'Italie recense 14 personnes en France. Matteo Salvini se dit prêt à partir à Paris, ici, pour rencontrer Emmanuel Macron et ramener en Italie ses assassins. Voilà, je cite ses propos. Avez-vous reçu des demandes d'extradition?
Pas encore. Pas encore. Et c'est une question que j'examinerai avec la plus grande attention, comme vous l'imaginez.
Le chiffre de 14 personnes en France ayant ce profil vous semble crédible?
C'est possible. Oui, c'est possible.
On ne le sait pas exactement, dites-nous.
Je vous le dirai volontiers, c'est un dossier, je vous le dis sincèrement, qu'au moment où je vous parle, je n'ai pas encore travaillé réellement, mais je sais que c'est un dossier qui va arriver dans les jours prochains, puisque j'ai entendu comme vous les propos tenus
par Matteo Salvini.
Absolument. Honnêtement, nous allons regarder ça avec la plus extrême attention.
Pourquoi la plus extrême attention? J'imagine que tous ces cas sont réglés, enfin tous les cas sont réglés avec la plus grande attention,
oui,
mais là il y a quoi de plus qu'il faut regarder?
Là, si vous voulez, il y a une dimension politique qui me semble légitimée, que nous ayons à la fois une discussion avec mon collègue italien, par exemple, et une situation, vraiment un regard très attentif sur chacun des dossiers.
50 avocats signent un texte dans Le Monde et protestent solennellement contre la pratique des autorités japonaises dans la conduite des poursuites engagées contre Carlos Ghosn. Est-ce que ses droits sont respectés,
Carlos Ghosn?
Est-ce que vous veillez à cela? Est-ce qu'il a le droit à une défense équitable?
Alors, il a des avocats qui sont attentifs à ces questions-là. À titre personnel, je n'ai jamais été sollicitée sur la vérification des droits qui sont les siens. Je pense qu'il a des avocats qui assurent cette vérification des droits. À titre personnel, je vous le dis, je n'ai jamais été sollicitée.
On retourne au standard. Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour à tous.
Vous nous appelez de Pau, Frédéric.
Exactement.
Soyez le bienvenu.
Exactement, de Pau, où, effectivement, le ciel est plutôt gris, grisâtre et pluvieux.
Ben voilà, ça fait un point commun avec Paris. Hein.
Voilà. Madame Belloué, bonjour.
Bonjour.
La Constitution dit que le président ratifie et signe seul les traités, ce qui vient d'être le cas pour le traité franco-allemand. Alors, il y a certes une autorisation à la suite par le Parlement et le Conseil constitutionnel. Mais ne pensez-vous pas que si on ajoute la mainmise sur la politique étrangère et les armées, qu'il y a là un exercice solitaire du pouvoir excessif propre à susciter l'étonnement, si ce n'est la colère des citoyens, qui pourrait nécessiter, disons, une modification sévère des institutions?
Merci Frédéric pour cette question. Nicole Belloubet vous répond.
sévère, une modification sévère, c'est pas le mot que j'utiliserais.
Ambitieuse.
C'est pas le mot que j'utiliserais. Dans la Constitution française depuis 1958, le président de la République a toujours eu deux pouvoirs qu'il exerçait, je vais dire de manière particulièrement... de pouvoirs propres importants en matière de politique de défense et en matière de politique étrangère. Plus la Constitution avance en âge, plus le Parlement réintervient sur ces domaines-là, à la fois par des autorisations de ratification, à la fois par des regards sur les lois de programmation de défense. Donc on sent bien, par des débats également qui sont organisés, donc on sent bien que le pouvoir du président de la République sur ces deux domaines réservés, puisque c'est le thème qui était utilisé au début de la Constitution de 1958, ce pouvoir est aujourd'hui de plus en plus encadré et il n'est pas illégitime du tout, évidemment, que le Parlement soit sollicité sur ces sujets-là.
Comment voyez-vous la perspective, en tout cas, elle est exprimée, formulée, d'un référendum d'initiative citoyenne, dans sa version maximale,
oui, oui. Hein,
qui propose des lois, qui peut en abroger d'autres et qui peut révoquer des élus.
Dans notre Constitution, et elle a été construite pour cela, il est important de considérer qu'il y a deux formes d'expression, à la fois par les représentants de la nation et directement par voie référendaire. Le référendum existe dans plusieurs articles de notre Constitution selon différentes modalités et notamment lors de la dernière révision constitutionnelle de 2008 a été mis en place un référendum d'initiative partagée qui ne répond certes pas au référendum d'initiative citoyenne mais qui jumelle au fond l'initiative des citoyens et la capacité des représentants à apprécier cette initiative. Je trouve qu'on pourrait peut-être retravailler sur ce sujet-là pour mettre en place un référendum qui fasse une part plus importante à l'initiative citoyenne.
Allez, encore une question au Standard Inter. Manuel est en ligne depuis Toulouse. Manuel ?
Oui, bonjour.
On me dit que vous êtes le bâtonnier des avocats de Toulouse. J'ai ça sous les yeux.
Exactement, Manuel Furet, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Toulouse. Nous nous étions rencontrés avec Madame Belloubet au mois de mai sur Toulouse avec mes prédécesseurs.
Oui, bonjour.
Voilà, ça fait un petit moment que nous vous interpellons, hein, que ce soit au niveau du local, mais surtout au niveau du national. Et alors qu'aujourd'hui, il y a un grand débat national avec des questions véritablement de société et que la justice fait partie de cette société, on s'étonne réellement que ce thème-là, une nouvelle fois, ne soit pas évoqué et pas simplement en présence d'une corporation, parce que ce n'est pas notre débat aujourd'hui, mais véritablement en présence de tous les justiciables, de tous les citoyens dont nous faisons également partie pour aborder un certain nombre de questions. Nous ne sommes pas contre la modernisation, bien évidemment, mais nous souhaitons que la proximité, la territorialité et un certain nombre d'échanges soient entendus, ce qui n'est toujours pas le cas.
Merci. Merci Manuel, merci monsieur le bâtonnier des avocats de Toulouse. Nicole Belloubet vous répond, la justice comme sujet du grand débat, pourquoi pas, pourquoi
vous,
non?
Vous savez, dans le grand débat, il y a à la fois des thématiques qui ont été, suggérées autour de la démocratie, de l'écologie, etc. Mais vous savez également qu'il y a des questions libres qui peuvent être, dont les citoyens peuvent s'emparer. Donc évidemment, il n'y a pas du tout d'hostilité à ce qu'il y ait des réflexions sur la justice. Mais je voudrais juste répondre à Manuel que la proximité et la territorialité sont totalement préservées dans le projet de loi qui, je l'espère, sera voté en deuxième lecture tout à l'heure par le Parlement.
Allez, une dernière question. Pourquoi n'est-ce pas vous, Nicole Belloubet, qui co-animez avec Cyril Hanouna un grand débat national à la télévision? Ça aurait pu avoir de la gueule, non?
Mais pourquoi pas?
D'accord. Vous faites une proposition.
Mais Marlène Schiappa a été sollicitée, je suis sûre qu'elle sera...
Non, Marlène Schiappa a sollicité.
Ah d'accord,
ça, très bien. Excusez-moi, qui vient...
Initiative.
Bon, mais ça vous tenterait.
Je ne refuse rien.
Est-ce que c'est la place d'un ministre de la République de co-animer une émission?
Je ne sais pas. En fait, c'est sur cette question-là que, à titre personnel, je m'interrogerai. Voilà.
Bon, le vrai grand gros débat télévisé sur le sujet, ce sera la veille sur France 2 jeudi soir. Merci beaucoup Nicole.
Merci
beaucoup Nicole Belloubet. Il est 8h45, le carrefour du 7-9 est à suivre, édito média, revue de presse et le billet, Nicole Ferroni.